Le 21 avril 2026, CATL a organisé une conférence de 2 heures à Shenzhen. En 2 heures, ils ont annoncé 6 technologies simultanément. 6. Une batterie qui se recharge à 98% en 6 minutes et 27 secondes. Une batterie NMC qui développe 3000 kW de puissance. Une batterie semi-solide pour voiture avec 1500 km d'autonomie. Une hybride rechargeable avec 600 km en tout électrique. Une batterie sodium qui entre en production de masse. Et également, une infrastructure de recharge qui vous fait gagner de l'argent au lieu d'en dépenser. Je vous préviens, cette vidéo risque d'être un petit peu longue, mais il y a énormément de choses à dire. On va tout décortiquer, la vidéo est chapitrée, donc vous pouvez y retrouver facilement et naviguer à l'intérieur. Et on va répondre à la vraie question. Est-ce qu'on est face encore à du marketing ou est-ce que c'est l'industrie automobile qui vient de basculer en une seule soirée ? Bonjour à tous, moi c'est Laurent, bienvenue sur Famille Électrique, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, comme je disais, va peut-être être un peu plus longue que à l'accoutumée. Néanmoins, il y a énormément de choses à dire et vous savez, ici, on aime bien rentrer un petit peu plus dans le détail que ce que vous allez lire un petit peu partout. Donc, plein de choses intéressantes. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous apprenez quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu ailleurs. N'hésitez pas à la commenter, à poser des questions, à échanger entre vous, à la partager également. Et puis, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram où je publie des choses différentes, peut-être plus humoristiques. Également Substack, donc qui est une chaîne de l'écrit, où là, je détaille certains articles. D'ailleurs, je vais peut-être faire un article très détaillé sur tout ce qui est contenu dans cette vidéo. Et comme il y a plein de choses à dire, on commence dès maintenant. Avant d'entrer dans le détail de chaque technologie, il faut comprendre le contexte stratégique dans lequel nous sommes, parce que rien de ce que CATL a annoncé ce soir-là n'était innocent. Il y a quelques semaines à peine, je vous parlais de BYD, son principal concurrent à CATL, qui avait lancé sa batterie BLED 2e génération avec une promesse forte, rechargée de 10 à 70% en 5 minutes et de 10 à 97% en 9 minutes seulement. BYD avait fait le buzz mondial à ce moment-là et puis ils ont renouvelé ça avec le lancement de la Denza Z9 GT qui propose cette technologie fast charging de BYD. Et CATL a attendu 3 semaines, puis a répondu. Et pas sur un produit, sur 6 produits simultanément. Alors CATL, c'est aujourd'hui 48,3% du marché mondial des batteries de véhicules électriques. BYD représente 17% de ce marché. Un véhicule sur deux dans le monde donc roule avec une batterie CATL. Sur les 2 heures de ce Super Tech Day, leur message implicite à BYD était limpide. Je dis implicite parce qu'ils n'ont jamais cité BYD une seule fois, mais on voit bien que toutes les annonces quasiment ont été faites en réponse à ce que BYD propose en face. C'est assez flagrant. Mais au-delà de cette rivalité commerciale, il y a quand même un désaccord philosophique profond sur la direction que doit prendre l'industrie. Et ce désaccord, aujourd'hui, il structure chacune des annonces de la soirée. BYD mise tout sur un seul matériau, le LFP, lithium fer phosphate. On en a déjà pas mal parlé sur cette chaîne, et je vous remettrai les liens quand même en description, et qui est poussé à ses limites pour couvrir le maximum de segments automobiles. Un matériau, une vision, une exécution. CATL défend l'exact opposé. Leur chef scientifique, l'académicien Wu Kai, l'a dit en ouvrant la conférence. Aucun matériau ne peut simultanément optimiser toutes les métriques de performance. La multichimie n'est pas une option, c'est une nécessité. Autrement dit, le LFP ne peut pas couvrir tous les types de besoins, tous les types d'usages. Et pour comprendre pourquoi, d'après eux, ils ont raison, il faut rentrer dans la physique. Alors c'est parti, on y va. On y va tranquillou, voilà, je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas, ça sera hyper simple. Petit aparté, je ne suis pas dans mon bureau aujourd'hui parce que j'étais en vacances quand CATL a fait toutes ces annonces et je voulais pas trop attendre pour vous en faire le rapport. Donc je suis dans ma voiture, la XPeng G6, il fait beau donc il va sans doute faire un peu chaud, je vais essayer d'être fluide, mais voilà, ne m'en voulez pas. La première annonce, c'est la Shenxing 3e génération. Prononcé Shenxing, je sais pas si je le prononce bien, ça signifie littéralement voyage divin. C'est la batterie LFP Ultra Charge de CATL. Et les chiffres sont assez brutaux. Je vous les énumère. 10 à 35% en 1 minute. 10 à 80% en 3 minutes 44 secondes. 10 à 98% en 6 minutes et 27 secondes. Pour comparaison, la Blade 2.0 de BYD fait 10 à 97% en 9 minutes. À moins 30 degrés, la Shenxing 3 fait 20% à 98% en 9 minutes. C'est quand même absolument dingue. Mais la vraie question, celle que tout le monde se pose, c'est est-ce que charger aussi vite ne va pas détruire la batterie? Je sais que vous allez me poser la question en commentaire, notamment ceux qui vont pas regarder la vidéo. Et c'est vrai que c'est une question légitime. Et CATL y répond avec de la physique. Quand vous chargez une batterie très vite, vous faites passer un courant très élevé. Et selon la loi de Joule, quand vous avez... Alors Joule, pas le chanteur, hein, tout de suite, pas le Marseillais. Donc je reprends. Selon la loi de Joule, que vous avez vu peut-être au lycée, la chaleur générée est proportionnelle au carré du courant. Doubler le courant, c'est quadrupler la chaleur. Et la chaleur, on le sait bien, c'est l'ennemi de la longévité des batteries. D'après l'équation d'Arrhenius, chaque fois que la température monte de 10 degrés Celsius, les réactions parasites de l'intérieur de la batterie doublent en intensité. La batterie vieillit deux fois plus vite. Donc, pour charger vite, sans vieillir vite, la seule solution est de réduire la résistance interne. Moins de résistance égale moins de chaleur pour le même courant. Et donc, CATL annonce avoir atteint 0,25 milliohms de résistance interne, soit 50% de ce que l'industrie propose en moyenne généralement. Ben, comment ils font? Ils répondent à ça en trois points. Trois innovations. La première, c'est le format 300 mm. Depuis 2015, CATL standardise ses cellules de supercharge à 300 mm de longueur. Pourquoi? Parce que plus un conducteur est long, plus il résiste. Une cellule de 300 mm génère plus de 20% de chaleur en moins qu'une cellule de 400 mm à courant identique. C'est une décision d'ingénierie vieille de 10 ans qui paye aujourd'hui. Deuxième innovation, l'édition génique de la couche SEI. Je m'explique. À la surface de l'anode, il se forme lors des premiers cycles de charge une couche ultra mince de quelques dizaines de nanomètres seulement qu'on appelle la SEI, Solid Electrolyte Interface. C'est en quelque sorte le douanier de la batterie. Il doit laisser passer les ions lithium rapidement tout en bloquant les molécules de solvant électrolyte qui dégradent l'anode. Deux exigences contradictoires à l'échelle du nanomètre. Et là, CATL a annoncé une SEI Gen Directed Editing Technology. C'est une première mondiale. Ils identifient précisément le composé chimique, ils l'appellent la substance X, c'est un peu mystérieux, qui obstrue le passage des ions lithium et ils le remplacent de façon ciblée. Résultat, doublement de la vitesse de transmission des ions lithium à travers le SEI, sans compromettre son rôle de barrière. C'est une avancée de chimie des matériaux réels, pas un ajustement de formulation, une intervention à l'échelle atomique sur l'interface la plus critique de la cellule. Troisième innovation, le graphite à espacement élargi. L'anode des batteries LFP est faite de graphite, un empilement de feuillets de carbone. Les ions lithium doivent s'intercaler entre ces feuillets pour stocker l'énergie. Problème, l'espacement entre les feuillets est de 0,335 nanomètres. C'est l'équivalent d'un couloir d'immeuble où les gens doivent se faufiler en file indienne avec des bagages. Et en plus, des forces de répulsion électrostatique ralentissent encore leur passage. CATL développe un graphite à espacement élargi par modification atomique. Grâce à ça, les ions s'intercalent bien plus rapidement, réduisant la résistance de diffusion. Et pour le froid, me direz-vous? Bah, c'est là que CATL innove vraiment par rapport à BYD. À moins 30 degrés, la résistance d'interface de la couche SEI est multipliée par presque 100. La batterie est quasiment paralysée. Et avant de charger vite, il faut vraiment la réchauffer. Des solutions existent, mais qui sont lentes. Ou alors, elles dépendent d'une infrastructure rare, comme des chargeurs avec stockage tampon. Comprenez les solutions fast charging de BYD. CATL introduit la batterie self-heating. C'est une application d'impulsion de courant oscillant à des fréquences spécifiques qui génère un échauffement interne de la cellule elle-même, sans borne spécialisée. Sur n'importe quelle borne, le préchauffage est automatique et rapide. Ce que ça change pour vous, conducteur? Bah, en été ou en hiver, vous allez vous arrêter 4 minutes et votre batterie passera de 10 à 80% et vous repartirez. C'est tout simple. Moins de temps qu'un plein d'essence avec un passage à la caisse. Et en plus, avec la garantie de maintenir 90% de la capacité de la batterie après 1000 cycles de charge ultra rapide. Un utilisateur qui se recharge vite deux fois par semaine, 52 semaines par an, c'est presque 10 ans avant de passer sous les 90% de batterie, ce qui laisse quand même vachement de marge. Est-ce qu'on est face à une rupture technologique ou face à une rupture marketing? C'est une vraie rupture. La deuxième génération de Changxing lancée en 2023 était déjà passée à 6C de charge. Passer à 10C nominal avec une résistance interne réduite de moitié Un SEI redessiné à l'échelle atomique et un auto-échauffement opérationnel à moins 30 degrés, c'est un vrai saut mesurable, vérifiable. Aucun concurrent mondial, ni LG, ni Panasonic, ni Samsung, ni BYD, n'a rien d'équivalent annoncé en LFP à cette date, tout simplement. Deuxième annonce de la soirée. Et là, on change de registre. On quitte le LFP pour entrer dans le monde du NMC, nickel, manganèse, cobalt. La batterie s'appelle Qilin. C'est le nom d'une licorne mythologique chinoise, apparemment. Voilà. La première génération avait atteint 255 watt-heure par kilo en 2022. Avec la technologie Cell-to-Pack 3.0, donc CTP 3.0, la deuxième génération en 2025 revendiquait 1330 kW de puissance crête, un record mondial à l'époque. Elle équipait les véhicules qui ont battu des records sur le circuit du Nürburgring cette année-là. La troisième génération annoncée ici double ce record. Oui, double ce record, c'est quand même incroyable. En effet, elle atteint les 3 MW de puissance en décharge. Pour vous donner une référence, une Formule 1 développe environ 1000 chevaux, soit 735 kW. La Qilin 3 développe 4 fois la puissance d'une Formule 1 à la décharge. Mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est l'argument des 255 kg. Écoutez-moi bien. CATL pose une question simple. Pour atteindre 1000 km d'autonomie, est-ce qu'on utilise du LFP ou du NMC? C'est vrai, c'est très simple comme question. Le LFP a une densité d'énergie plus faible que le NMC, vous le savez. Donc pour stocker la même quantité d'énergie, un pack LFP est plus lourd, plus volumineux. Pour une berline ou un SUV qui veut faire 1000 km, un pack LFP pèserait plus de 880 kg, presque une tonne. La Qilin 3, elle, fait la même chose à 625 kg. Alors tout ça, c'est à ramener aux normes chinoises, hein. On n'est pas sur du WLTP, mais voilà, ça vous donne une bonne, un bon ordre de grandeur. Donc la différence, c'est 255 kg, c'est le poids de 3 adultes, on va se dire. Et CATL a passé un temps considérable à quantifier ce que ces 255 kg représentent concrètement. En freinage d'urgence à 100 km/h, la distance de freinage est réduite de 1,44 m. 1,44 m, ça paraît peu, mais selon les données du centre d'essai automobile chinois, chaque mètre gagné en freinage réduit la probabilité d'accident de 8%. Sur route mouillée ou verglacée, cette distance peut même littéralement faire la différence entre l'incident et une catastrophe plutôt mortelle. Et puis, ça améliore également la tenue de route. Ils ont fait le test qui s'appelle le Moose Test, le test d'évitement d'obstacles brusques. La vitesse de passage est améliorée de 8% et l'angle de roulis est réduit de 6,5%. En fait, ça va de soi, l'allègement change la physique du véhicule et pas juste son poids sur la balance. C'est vrai que ça a des incidences sur la sécurité et CATL, ils ont pris le temps de mesurer ça parce que c'est un argument qu'on n'utilise pas souvent pour comparer une LFP avec une NMC avec autonomie comparable. Autre argument aussi, les pneumatiques, ils dureront 30% plus longtemps avec ce poids de 255 kg en moins, soit environ 10 000 km de plus avant leur remplacement. C'est pas neutre. La suspension et les amortisseurs aussi seront impactés. Ils vont durer 40% plus longtemps. Donc un véhicule léger use moins ses composants. C'est aussi simple que ça. Maintenant, la sécurité. Et c'est là que CATL introduit une innovation que je trouve particulièrement intéressante. Depuis 2020, CATL déploie sa technologie NP, No Propagation, qui empêche la propagation thermique d'une cellule en feu aux cellules voisines. Plus de 10 millions de véhicules sont équipés de cette technologie aujourd'hui. C'est déjà devenu quasiment un standard industriel. La Qilin 3 va encore plus loin avec la Thermal Electric Separation, la séparation thermique électrique. Le problème dans un emballement thermique de batterie NMC haute énergie, c'est que les gaz chauds éjectés par la cellule défaillante peuvent entrer en contact avec les composants haute tension voisins et donc là déclencher un arc électrique qui va mettre le feu aux poudres, si je peux dire, enfin en tout cas le feu au gaz. Et c'est souvent là que l'incendie s'emballe de façon ingérable et ça peut être très grave. On l'a tous vu en vidéo. CATL isole physiquement les composants haute tension de chaque cellule et crée des canaux d'échappement dédiés et étanches pour évacuer les gaz. Résultat, les gaz chauds prennent la voie thermique et l'électricité prend la voie électrique. Les deux ne se rencontrent plus et l'arc électrique sur gaz inflammable est supprimé à la source. Ce que ça change pour vous concrètement, 1000 km d'autonomie réelle avec une charge quasi aussi rapide qu'une voiture essence. Et puis, une voiture plus dynamique, qui tient mieux la route. Également, un habitacle plus grand de 18 mm de garde-toit parce que le pack est 112 litres plus compact qu'un LFP équivalent. Soit l'espace de 3 valises qu'on peut mettre, des valises cabine par exemple. Et puis, vous ajoutez à ça la sécurité que jusqu'ici, les batteries NMC avaient du mal à nous apporter. C'est quand même game changer. La progression de 255 à 280 Wh par kilo est vraiment solide. Le saut de 1330 à 3000 kW en crête est tout simplement spectaculaire. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de concurrent qui propose l'équivalent à ce que vient d'annoncer CATL. Passons maintenant à la troisième annonce. Et avec celle-ci, on entre dans quelque chose d'un petit peu différent, vous allez voir. CATL présente la Kylin Condensed Matter Battery, la batterie Kylin à électrolyte condensé. Ce nom mérite une précision technique immédiatement parce que ce que CATL appelle Condensed Matter, ça correspond en fait à ce que le reste de l'industrie appelle une batterie semi-solide, parfois liquide solide. Ce n'est pas encore une batterie tout solide au sens strict du terme. L'électrolyte n'est pas ici un solide cristallin, c'est un gel dense, une matière condensée qui n'est plus un liquide. L'histoire de cette technologie est assez fascinante. CATL avait présenté en 2023 une version de cette chimie pour l'aviation électrique, atteignant 500 Wh par kilo. Cette batterie a déjà effectué son premier vol de validation sur un aéronef commercial d'une tonne. Des tests sur appareils de plus de 8 tonnes sont même en cours. CATL a même investi dans un fabricant d'eVTOL qui s'appelle Autoflight pour tester en fait cette technologie, pour l'utiliser vraiment. Donc c'est pas de la recherche fondamentale, c'est une technologie qui est littéralement déjà en vol. Ce que CATL vient donc d'annoncer, c'est le transfert de cette technologie vers l'automobile. 350 Wh par kilo de densité gravimétrique, 760 Wh par litre de densité volumétrique, les deux records mondiaux, toutes catégories confondues en batterie automobile selon CATL. C'est un bond de 17% sur la meilleure technologie cylindrique haute énergie du marché occidental aujourd'hui. Résultat, sur un SUV grand format, imaginons 3 rangées, 6 places, plus de 1500 km d'autonomie avec un pack qui pèse moins de 650 kg. Même avec une décote de 30% en condition autoroutière, quand on roule à 130, ça fait quand même 930 km d'autonomie en une seule charge. Deux innovations clés. La première, des matériaux d'aviation. Pour tenir la performance à ce niveau de densité tout en gardant le pack de 650 kg, CATL adopte des matériaux structuraux issus de l'aéronautique. Ils sont 60% plus fins que les matériaux conventionnels équivalents et 30% moins lourds avec une résistance mécanique multipliée par plus de 3. Résultat, 20 Wh par kilo gagné rien que sur les matériaux du pack. Deuxième innovation, l'électrolyte condensé. Zéro fuite, zéro flamme. L'électrolyte liquide des batteries conventionnelles, les fameux carbonates de lithium, est inflammable et volatile. C'est lui qui alimente les incendies spectaculaires qu'on voit parfois dans les médias. En remplaçant ce liquide par un électrolyte en état de condensé, un gel en fait, le CATL élimine structurellement deux risques, la fuite d'électrolyte en cas de déformation mécanique et l'inflammabilité intrinsèque du matériau. Pas de liquide égale pas de fuite égale pas d'incendie par ce mécanisme. Un bémol important tout de même, CATL n'a pas communiqué de date de production en série pour l'automobile pour cette batterie. Pas de premier véhicule annoncé, pas de partenaire constructeur nommé, c'est une démonstration de capacité technologique et une annonce de la bonne direction qu'ils ont prise, mais la technologie n'est pas encore aujourd'hui annoncée vraiment dans une auto. Le calendrier reste encore flou, donc je vous le dis. Alors, pourquoi ils l'ont annoncé maintenant? Il y a forcément une raison stratégique derrière et quelque part, ils s'adressent un peu plus aux investisseurs qu'aux constructeurs. Autre annonce de la soirée, là on va changer de monde, on quitte les BEV, les voitures 100% électriques, pour parler des PHEV et des EREV, les hybrides rechargeables et les véhicules à prolongateur d'autonomie. La batterie s'appelle FreeVoy, c'est en gros liberté de voyager. La première génération lancée il y a 2 ans avait déjà marqué les esprits en proposant 400 km d'autonomie tout électrique pour un hybride rechargeable là où la norme du marché était plutôt à 60 ou 80 km. C'était déjà une vraie rupture. La deuxième génération pousse jusqu'à 600 km en tout électrique. Pourquoi 600, pas 500, pas 700? Pourquoi ce chiffre? CATL possède des données de télémétrie sur plus de 25 millions de véhicules en circulation. ils ont regardé combien de fois le moteur thermique se déclenchait selon l'autonomie électrique disponible. Résultat, avec une autonomie électrique inférieure à 400 km, le moteur thermique se déclenche sur 15% des trajets. Avec 600 km d'autonomie électrique, le moteur thermique se déclenche sur moins de 1% des trajets. Moins de 1%, c'est le seuil à partir duquel votre hybride rechargeable se comporte comme un électrique pur. En fait, dans ces conditions, le moteur thermique, on peut dire qu'il est là pour les voyages les plus extrêmes. Ça reste un filet de sécurité, mais statistiquement, il va presque plus jamais tourner. Voilà, c'est en tout cas ce que CATL annonce. Ça donnerait une autonomie réelle combinée de plus de 2000 km. Moi, personnellement, je suis pas très sensible à ces arguments-là. Maintenant, dans des régions froides, isolées, avec peu de solutions de charge, bon, pourquoi pas? S'il y a un besoin, ils ont la solution en tout cas. Moi, ça me touche pas trop. Par contre, ce qui me touche vraiment, c'est l'innovation technologique, l'innovation chimique qu'il y a derrière ça. Comment CATL gagne-t-il cette autonomie sans simplement grossir le pack? Ils introduisent une nouvelle chimie qu'ils appellent super hybride, qui est en fait un mélange de poudre LFP et NMC à l'échelle des particules. Prenons un instant pour comprendre ce que ça signifie, parce que c'est pas trivial, vous allez voir. Le LFP et le NMC sont deux familles chimiques fondamentalement différentes. Leurs potentiels électrochimiques sont différents, leurs structures cristallines sont différentes, leur cinétique d'intercalation des ions lithium est différente. Les mélanger, c'est comme faire cohabiter deux matériaux qui ont des personnalités chimiques incompatibles. Déjà connu ça peut-être hein, avec l'un ou avec l'autre. Ce que CATL réalise, c'est l'intégration à l'échelle microstructurale. La structure cristalline olivine du LFP sert de matrice dans laquelle les particules NMC sont distribuées en gradient uniforme. C'est pas deux matériaux dans la même électrode, c'est une architecture composite à l'échelle de quelques micromètres. Le résultat, 230 watts par kilo de densité d'énergie, soit 15 à 20% de plus qu'une batterie LFP classique à poids de pack identique. Et en plus, sans les risques du NMC. Deux chiffres sur la robustesse. La norme nationale chinoise en termes de résistance aux impacts pour un fond de pack batterie, c'est 150 joules, équivalent à un caillou de 3 cm projeté à 330 km/h. La Freevoy 2 résiste à 1500 joules, soit 10 fois la norme. C'est en gros l'équivalent d'un coup de fusil standard. Bon, j'espère qu'on n'aura pas à prouver que c'est vrai. En termes d'étanchéité, la norme exige de tenir 1 mètre d'immersion pendant 30 minutes. La Freevoy tient 2 mètres pendant 200 heures, soit plus de 8 jours sous l'eau. La chimie superhybride LFP plus NMC à l'échelle particulière est une innovation scientifique qui est, à mon avis, inédite. Personne d'autre n'a déjà annoncé ce type de chimie. Ce que d'ailleurs la presse chinoise a relevé, c'est que BYD n'a pas de réponse là-dessus. Je passe à la cinquième annonce et celle-ci, je veux commencer par l'enjeu géopolitique parce que c'est fondamental. Le lithium, le cobalt, le nickel, les matières premières des batteries actuelles sont concentrées dans quelques régions du monde. Le lithium, c'est plutôt le triangle Chili, Argentine, Bolivie, Australie. Le cobalt, c'est la République démocratique du Congo à 70%. Le nickel, c'est l'Indonésie, les Philippines, la Russie aussi. Donc, pour résumer, ce sont des dépendances stratégiques, des risques d'approvisionnement et de tensions géopolitiques très forts. Le sodium, lui, est partout, on le sait, dans l'eau de mer, dans le sel de cuisine, si on veut, il coûte presque rien. Et dans une batterie sodium-ion, on n'a pas besoin de lithium, pas de cobalt, pas de nickel. La batterie CATL, sodium, s'appelle Nextra. Et l'annonce de l'autre soir, c'est que ça y est, elle entre en production réelle au quatrième trimestre 2026. Soyons précis, c'est pas une annonce ex nihilo. CATL avait déjà présenté la Nextra en 2025, je vous en avais parlé, avec une densité d'énergie améliorée de 50% par rapport à leur première génération de sodium. Un premier véhicule particulier de série mondiale avec une batterie sodium, co-développé avec Changan Automobile, avait même été dévoilé. C'était en février 2026. Ce qui est nouveau dans l'annonce de CATL, c'est la résolution des derniers verrous industriels qui bloquaient jusqu'ici la production en masse, à grande échelle. Et ces verrous, ils méritent vraiment qu'on y passe quelques minutes ensemble. Verrou numéro 1, l'humidité. Vous savez que ça marche pas trop bien avec le sodium, cette affaire. Vous vous souvenez des cours du collège, hein? Le sodium est beaucoup plus réactif à l'eau que ne l'est le lithium. Maintenir une teneur en eau inférieure à 200 ppm, 200 particules par million, dans les électrodes tout au long du processus de fabrication nécessite des matériaux hydrophobes spécifiques et un contrôle dynamique permanent de la température et de la pression dans les salles de fabrication. C'est vraiment un défi d'ingénierie énorme qui se présentait face à CATL. Ça, ils l'ont fait sauter. Verrou numéro 2, la mousse dans la boue d'anode. L'anode des batteries sodium-ion utilise du hard carbone, un carbone désorganisé truffé de micropores. Un kilo de ce matériau contient environ 10 puissance 23 pores ultra fins. Ces pores, en fait, ils piègent l'air et ils créent de la mousse lors du malaxage de la boue électrode, rendant le revêtement des collecteurs impossible à l'échelle industrielle. La solution trouvée, c'est la régulation de la taille des pores à l'échelle atomique et le blocage moléculaire de l'eau en surface. Verrou numéro 3, l'adhérence anode collecteur aluminium. Différence cruciale avec le lithium-ion, les batteries sodium utilisent un collecteur en aluminium au lieu du cuivre. Avantage économique important, l'aluminium est bien moins cher que le cuivre. Mais en contrepartie, l'adhérence entre la boue de hard carbone et l'aluminium était insuffisante pour la production industrielle. Sans rentrer dans les détails, CATL a résolu le problème avec un revêtement fonctionnel bipolaire. Bon, voilà. Me demandez pas trop. Là, on pousserait vraiment, vraiment dans le détail technique. Et je vous perdrai tous et je me perdrai moi-même. Verrou numéro 4, la formation in situ de l'anode. C'est quelque chose d'un petit peu plus subtil encore. Dans une batterie sodium-ion, l'anode se forme elle-même lors du premier cycle de charge. On parle de formation in situ. C'est potentiellement économique, mais c'est extrêmement difficile à contrôler. C'est-à-dire qu'en gros, l'anode se forme d'elle-même. CATL a développé un système de formation dynamique, adaptatif, qui pilote précisément les gaz produits lors des réactions secondaires et les contraintes mécaniques de l'électrode pour créer une interface à l'échelle nanométrique uniforme et stable. C'est la condition indispensable à la production de masse. Alors, la densité d'énergie aujourd'hui, c'est environ 175 Wh par kilo. C'est moins que le LFP. La Nagstrad d'aujourd'hui est donc destinée à des véhicules plutôt d'entrée de gamme, des petits véhicules, même des micro-véhicules. Mais CATL a annoncé que lorsque la chaîne d'approvisionnement sodium sera mature, il vise des véhicules avec 600 km d'autonomie, comprenez plutôt 400 km d'autonomie norme WLTP, hein, 450. Et déjà, et ça serait très important parce que ça couvrirait plus de la moitié des demandes du marché mondial, à un coût structurellement inférieur de moins 30% par rapport aux batteries LFP d'aujourd'hui. Cette Nagstra, c'est donc une pièce stratégique majeure sur l'échiquier de long terme pour CATL. Sixième et dernière annonce, et celle-ci est carrément différente des autres, parce que on ne parle pas d'une batterie ou d'une chimie de batterie, on parle d'une infrastructure. Vous avez compris que je vais vous parler du fameux swap batterie. Et là aussi, c'est une réponse directe à l'une des armes les plus redoutables de BYD, vous allez voir. Petit rappel du contexte, BYD a déployé ses superchargeurs Flash Charge avec des batteries de stockage tampon intégrées côté borne. Le principe est simple, on stocke de l'énergie dans une grosse batterie stationnaire à côté de la borne et on la décharge très très vite dans le véhicule. Cela permet de délivrer une puissance énorme sans saturer le réseau électrique local. C'est malin, on en a déjà parlé sur la chaîne, mais CATL pointe un problème physique fondamental. Ce système implique deux conversions énergétiques successives. Réseau batterie-tampon, puis batterie-tampon-véhicule. Première conversion, l'électricité va du réseau à la batterie-tampon. Deuxième conversion, l'électricité va de la batterie-tampon à la voiture. Or, chaque conversion a un rendement qui n'est jamais de 100%. Les pertes vont donc s'accumuler. CATL retourne cet argument. Leur station ChocoSwap, les stations d'échange de batteries, sont naturellement des installations de stockage. Des dizaines de packs chargés attendent en permanence d'être échangés. En intégrant la technologie Shenzhen Supercharge directement dans ces stations, CATL réalise la même fonction avec une seule conversion. Réseau vers batterie swap, puis vers véhicule. Mais vous voyez bien qu'on a une étape de moins. Résultat, 13 points de perte économisés par rapport à la solution avec double stockage. Comprenez, solution avec les batteries stationnaires énormes que BYD projette d'installer dans ses stations supercharge. Si on traduit ça concrètement, pour 100 kWh prélevés sur le réseau, votre véhicule récupère 13 kWh de plus avec le système CATL qu'avec le système BYD à double stockage. Selon la consommation du véhicule, c'est 65 à 120 km de capacité d'autonomie supplémentaire pour la même facture électrique. C'est quand même pas neutre. Là, CATL, je trouve qu'ils ont été très malins et ils marquent vraiment des points. Moi qui suis pas trop chaud pour le système swap batterie, là, c'est vrai qu'il remonte un peu dans mon estime. CATL lance simultanément le Chocolate Pack numéro 26, un nouveau pack d'échange en architecture 800 volts haute tension avec une capacité initiale de 75 kWh qui est destinée à des véhicules de segment B ou C. Des versions de capacité supérieure sont même annoncées dans les prochains mois. Un pack numéro 20 plus compact sera lancé pour les segments entrée de gamme, notamment pour intégrer SAIC GM Wuling, le géant des micro-véhicules électriques, dans l'écosystème ChocoSwap. Et maintenant, le détail qui change vraiment la donne pour l'utilisateur final. À partir du deuxième semestre 2026, les utilisateurs du service ChocoSwap pourront vendre l'électricité stockée dans leur batterie aux stations d'échange lors des pics de prix sur le réseau. Ce qu'ils appellent du V2G, véhicule to grid, mais dans un cadre organisé, simple et automatique. Votre véhicule est garé ? La batterie participe à l'équilibrage du réseau électrique. En retour, un gain quotidien pouvant aller jusqu'à l'équivalent de 5,50 euros par jour. Pour mettre ça en perspective, 5,50 euros par jour, c'est 165 euros par mois sur une année, soit près de 2000 euros. De quoi couvrir largement la location de la batterie et dégager même peut-être un bénéfice, sachant en plus que l'électricité en Chine vaut moins cher que celle qu'on a chez nous en France et en Europe. CATL résume ça en une phrase que j'aime beaucoup pour sa franchise commerciale. Avant, charger et swapper coûtait de l'argent. Désormais, vous pouvez en gagner. Voilà, c'est simple, c'est marketing, mais si c'est vrai, c'est game changer là aussi. Et ça fait réfléchir les gens. Un détail supplémentaire qui a son importance. Une station ChocoSwap peut servir trois fois plus de véhicules qu'une borne de charge conventionnelle sur le même emplacement. Le coût d'investissement d'une station swap intégrée est revendiqué à un cinquième du coût d'un superchargeur avec stockage tampon équivalent. Encore une flèche contre BYD. En résumé, l'intégration swap plus supercharge dans une même station est une réponse architecturale élégante et techniquement supérieure au stockage tampon côté borne. Alors, on en revient à la vraie question posée en ouverture. CATL vient-il de changer les règles du jeu ou est-ce encore un exercice marketing sophistiqué auquel on a assisté? Voici mon verdict honnête, technologie par technologie.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre. J'ai différents réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me contacter. Et puis, si vous avez besoin d'une borne de recharge, vous avez également mes liens en description. Avec Born4You, vous aurez un devis gratuit rapide pour l'installation d'une borne de recharge. Et puis, la borne que j'ai choisie de mon côté, c'est une borne V2C Trident. Pareil, vous avez un lien dans la description avec un code promo de moins 10% que vous pouvez utiliser.
La Shenzhen 3, vraie rupture. 10C en LFP, une résistance interne réduite de moitié, le SEI redessiné à l'atome, l'auto-échauffement à moins 30 degrés. On est loin d'être sur un ajustement, hein, on est loin d'être sur du marketing, on est sur un saut de génération qui est vraiment majeur. La Keeling 3, une vraie avancée. 3 MW de puissance en crête, 280 Wh par kilo, une séparation thermique électrique, la charge 10C en NMC de série, c'est une première mondiale. Aucun concurrent occidental n'a d'équivalent aujourd'hui. La Keeling Condensed, c'est une vraie technologie. Elle est réelle. Elle est déjà utilisée dans des avions. Mais au niveau du calendrier automobile, ça reste flou. C'est une démonstration de direction, de stratégie, plus qu'un lancement imminent. La Freevoy 2, c'est une innovation chimique inédite avec le mélange LFP plus NMC à l'échelle particulière. 600 km d'autonomie réelle pour un PHEV avec des données documentées terrain, personne n'a ça en magasin. La batterie sodium Nakstra, 4 verrous industriels résolus, premier véhicule de série mondiale déjà dévoilé en février, production de masse en Q4 2026, c'est crédible, c'est pas du marketing, c'est du travail d'ingénierie. Le ChocoSwap intégré, une architecture système supérieure à la solution BYD sur l'efficacité énergétique, c'est indéniable, c'est prouvé. Le V2G organisé qui transforme votre batterie en source de revenus, c'est hyper malin et hyper intéressant. Et le déploiement est déjà en cours et c'est vérifiable. Ce qui m'a vraiment impressionné dans ce super Tech Day de CATL, c'est que il n'y a pas eu qu'une seule percée qui a été annoncée, mais c'est 6 vraies percées simultanées qui ont été présentées dans la même soirée, avec pour chacune des précédents internes documentés, des mécanismes physiques vérifiables et des calendriers de production vraiment engagés. Ça ressemble pas vraiment à du marketing, ça ressemble à ce qui arrive quand une entreprise investit 10 milliards de yuan, c'est-à-dire 1,3 milliard d'euros en R&D en seulement un an, soit près d'un tiers de son chiffre d'affaires. Voilà. Bon, la question que j'aimerais vous poser maintenant, c'est quelle est l'annonce qui vous a apparu la plus folle ou alors la plus intéressante, celle que vous aimeriez vraiment voir arriver le plus rapidement dans nos véhicules. Et puis, est-ce que vous voyez comme moi que CATL a fait une réponse point à point, en fait, à ce que propose BYD avec sa technologie de recharge rapide? Pour moi, en gros, CATL a dit à BYD, écoute, tu proposes ça, t'inquiète, on va te montrer qui c'est les plus forts. Un peu ça. En tout cas, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que vous l'avez appréciée, mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous si ça n'est déjà fait, c'est hyper important pour moi. Ça récompense vraiment tout le travail que j'ai fait pour préparer cette vidéo. Et puis, ça fait plaisir, tout simplement. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur une autre batterie. Une autre batterie, peut-être dedans 3 mois, peut-être dedans 10 ans ou peut-être dedans maintenant. À bientôt sur Famille Électrique. Ciao, ciao.